Vous méritez des applaudissements. Vous avez changé pour venir de Paris grâce à la SNCF, 3 fois d'itinéraire, entre déraillement d'un train de marchandises, grève, retard du TGV et correspondance non assurée. On peut dire que vous teniez absolument à tenir vos engagements, là où d'autres auraient sérieusement abandonné. Alors, il y a 3 ans, le 4 décembre, alors je vais essayer de pas de me tromper de date, moi les dates on est fâchés, le 4 décembre 2019, c'est bien ça? Oui. Le 4 décembre 2019, et là nous sommes le 7, 3 ans après. Vous nous aviez fait découvrir votre métier, celui de conservateur, un métier beaucoup plus riche, varié et passionnant, plus que nous aurions pu l'imaginer. Aujourd'hui, c'est toute la variété et la richesse de l'œuvre d'Eugène Delacroix que vous allez nous présenter. Nous vous remercions encore d'être là et nous vous écoutons.
Bon, merci beaucoup pour cette introduction et merci aussi plus particulièrement à Daniel et Marie-France pour leur accueil, comme il y a 3 ans. Et c'est aussi grâce au caractère très, très chaleureux et spontané de votre accueil que je suis ravi de revenir 3 ans, même si, comme vous l'avez souligné, le trajet n'a pas été facile cette fois-ci. Alors, donc je vais vous parler aujourd'hui d'Eugène Delacroix, un artiste dont je suis chargé de conserver les tableaux au musée du Louvre, parmi les nombreuses collections de peinture française du XIXe siècle qui sont le domaine qui m'est choix, et un artiste auquel j'ai eu la chance de pouvoir donc travailler, enfin en tout cas concevoir une exposition dédiée à l'intégralité de sa carrière, une exposition que certains d'entre vous, notamment Monsieur et Madame Sueur ont vu, qui s'est déroulé au Louvre et au Metropolitan Museum de New York en 2018. Mais entre-temps, alors évidemment, cette exposition sera, enfin, le travail que j'ai fait à ce propos sera le point de départ de ma conférence, mais depuis 2018, il s'est passé certaines choses, notamment des restaurations exceptionnelles d'œuvres majeures du Louvre. Et je vous en parlerai à la suite donc de ce parcours que nous allons faire à travers la vie et la carrière de cet artiste. Alors Delacroix aimait, disons, se mettre en scène. C'était un homme assez beau, flamboyant, et il avait aussi un certain humour, une ironie assez grinçante, et c'est à cette phrase, vous me traitez comme on ne traite que les grands morts, à laquelle je me suis accroché au début. Cette phrase, il l'a écrite à Charles Baudelaire pour le remercier d'une critique d'art assez favorable, assez flatteuse, que Baudelaire lui avait dédiée en 1859, et qui doit nous rappeler que effectivement, on a souvent tendance, évidemment avec le regard rétrospectif, le regard d'historien, à avoir une approche peut-être trop révérencieuse de ces grands hommes, et il faut évidemment essayer de les aborder aussi à travers leurs hésitations, leurs échecs, parfois les impasses dans lesquelles ils se sont trouvés, pour restituer avec plus de vérité le parcours qui a été le leur. Alors plus de 160 ans plus tard, cette formule donc invite à se départir de la posture trop révérencieuse que prend souvent la monographie d'un artiste célèbre, mais elle rappelle aussi que Delacroix avait une conscience très vive de sa position dans son temps et dans l'histoire. Il est né en 1798, peu de temps après la création du Panthéon, et de la création aussi du Muséum Central des Arts au Louvre, qui était le Panthéon des artistes. Et il a travaillé dès son adolescence, à s'inscrire parmi les grands hommes de sa famille en particulier, puisque nous allons voir qu'il ne vient pas de nulle part, et aussi parmi les grands hommes de la patrie en général. Un objectif qui a déterminé une stratégie de carrière habilement orchestrée, au rythme de ses participations aux expositions d'art contemporain, au rythme aussi de l'entrée progressive de ses tableaux en musée, et aussi des grands chantiers de peinture monumentale dont il a été chargé. Mais également une stratégie de carrière qu'il a, disons, orientée à travers l'écriture, un travail d'écriture énorme qu'il a laissé et dans lequel sa création se réfléchit. Il faut savoir en effet que Delacroix est certainement le peintre français de son siècle à laisser le plus grand volume d'écrits. Des milliers de pages formées par ses lettres, par des articles de presse notamment qu'il a écrits, un dictionnaire des beaux-arts qui est resté inachevé, mais et surtout aussi le journal. Un journal intime qu'il a tenu pendant deux longues périodes et qui est une véritable mine pour l'histoire de l'art et qui nous convaincrait presque que le peintre nous a tout dit de lui. Alors je vous montre ici deux exemples de ce journal qu'il a écrit sur des carnets qui sont tous aujourd'hui conservés à l'Institut National d'Histoire de l'Art à Paris. Et il l'a tenu à deux périodes. Un journal de jeunesse, dont vous voyez un exemplaire à gauche, tenu de 1822 à 1824. Vous remarquez tout de suite le caractère spontané, parfois désordonné, extravagant de l'écriture. S'ensuit une période d'interruption assez longue, et c'est à partir de 1847 qu'il reprend l'écriture d'un journal quotidien, et cette fois-ci en utilisant des agendas qui sont faits pour cela, et avec une écriture beaucoup plus régulière, beaucoup plus tenue, beaucoup plus sage. Parfois il s'en sert, vous voyez, de d'herbier, et il s'est tenu à cet exercice quasi quotidien jusqu'à sa mort en 1863. Mais la vérité de ce journal, elle est aussi ambiguë que celle d'un miroir. Il reflète la personnalité de celui qui l'écrit, mais aussi en l'inversant. Son auteur s'en sert d'instrument pour s'observer lui-même, pour se corriger, pour s'exhorter, et il projette autant ce qu'il aurait voulu être que ce qu'il est réellement. L'abondance de l'écriture peut donc aussi être un mirage auquel l'historien de l'art doit opposer un patient travail critique et plus que tout, un retour à la matière première, un retour aux peintures et aux dessins. Alors il reste encore beaucoup à comprendre certainement sur la manière dont Delacroix a globalement dirigé, évalué, réorienté sa carrière, une carrière qui s'étale sur plus de 40 années, à peu près de 1821 jusqu'à sa mort en 1863. Or, les peintures qui font sa célébrité aujourd'hui ont pour la plupart été produites durant la première décennie. Par exemple, tout le monde ici se souvient de La liberté dans le peuple, ou des femmes d'Alger, ou peut-être des massacres de Sceaux. Tout cela tient dans un mouchoir de poche. C'est 1824-1834, pas davantage. Or, la suite est beaucoup moins connue et plus complexe aussi à appréhender. Il y a des obstacles physiques. D'abord, le fait que il s'est consacré à des décors monumentaux qui sont parfois difficiles d'accès, qui sont aussi parfois altérés, assombris. Vous avez ici par exemple les coupoles qu'il a peintes pour la bibliothèque de la Chambre des députés au Palais Bourbon, auxquelles seuls les députés encore aujourd'hui ont accès, excepté lors des journées du patrimoine. Et puis, certains décors, malheureusement, ont été détruits aussi, comme ceux qu'il a réalisés pour l'Hôtel de Ville de Paris, incendié pendant la Commune en 1871. Et d'autres peintures, évidemment, sont dispersées dans beaucoup de collections, hors de France, dans le monde entier. On est aussi assez dérouté par le phénomène de reprise avec variation qu'il a fait, reprenant des sujets tout au long de sa vie, les répétant. Et des œuvres aussi déstabilisantes. Par exemple, si on se dit que Ils ont l'œuvre la plus célèbre qu'il a laissée, c'est La liberté guidant le peuple, directement inspirée par la révolution de 1830. 18 ans plus tard, comme vous le savez, une nouvelle révolution secoue la France et même toute l'Europe, la révolution de février 1848. Qu'est-ce qu'il peint cette année-là ? Des fleurs. Absolument rien de politique. Et 6 mois avant, au salon d'art contemporain auquel il participait quasiment toutes les années, eh bien, il présentait un Christ au tombeau. Donc, vous voyez, en plus, une succession de styles, d'approches entre ce bouquet de fleurs exubérant, néo-baroque, et cette Pietà extrêmement austère, presque caravagesque. On ne sait plus du tout aussi bien cerner le style, la facture de la croix. Alors depuis une quinzaine d'années, les historiens de l'art ont essayé de réexaminer l'œuvre peinte de Delacroix. Il y a eu la grande exposition du Louvre qui a permis de faire un point et de faire aussi se détacher 3 grandes périodes. La première décennie, placée sous le signe de la conquête de gloire individuelle dans tous les genres. La seconde partie dominée par les grands chantiers de décor public. Et puis les 10 dernières années, où la création de la croix est vraiment difficile à cerner, sans doute probablement davantage dominée par un travail de mémoire et de souvenir. On mesure en tout cas le caractère très dynamique de la création chez Delacroix, selon un processus toujours évolutif et cumulatif, mais sans jamais varier d'un grand principe, celui du culte de la singularité, de l'originalité, de l'indépendance à toute épreuve, et d'autre part, la confiance, l'amour et presque, je dirais, la gourmandise accordée au plaisir de peindre. L'appétit de Delacroix pour la bonne grasse peinture épaisse, comme ça qu'il l'a décrit dans son journal, ne l'a jamais quitté et c'est quelque chose, évidemment, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Ici, je vous montre un exemplaire des palettes de Delacroix que l'on conserve encore aujourd'hui. Celle-ci est une palette un peu artificielle puisque c'est celle dans laquelle il a posé délicatement tous les tons dont il se sert, mais avant de commencer à peindre. Il l'a offerte à un ami qui était son fournisseur de toiles et de couleurs et aussi le restaurateur de ses tableaux. Et donc, comme je vous le disais, justement, nous reviendrons en fin de présentation sur les dernières restaurations de ses principales œuvres qui ne sont pas simplement des réparations, mais qui marquent vraiment la renaissance de ses chefs-d'œuvre. Alors, Delacroix, donc, essayons de le rencontrer à l'orée de sa carrière. Je vous l'ai dit, il est né en 1798. Il compte parmi cette génération de jeunes Français qui étaient destinés à un destin certainement superbe, prendre la relève des élites de l'Empire napoléonien. Mais, par malchance, il est le dernier d'une fratrie, il est né trop tard, et il parvient à l'âge adulte alors que tout s'effondre, puisqu'en 1815, il a 17 ans. Il est orphelin, il a perdu sa mère en 1814, son père déjà 10 ans plus tôt, et donc, il est, comme je vous le disais, le benjamin d'une fratrie qui est ruinée économiquement. Mais il a déjà une forte conscience du défi à relever et du fait qu'il doit relever aussi le lustre d'un père et de frères aînés qui ont illustré l'arbre généalogique familial. Puisque, rappelons-le, c'est souvent oublié, Delacroix est le fils d'un grand serviteur de l'État, dont vous voyez le portrait ici à gauche, sculpté par Chinard. Son père, Charles Delacroix, avait été commis du ministre et surintendant des Finances Turgot sous le règne de Louis XVI. Il a été député de la Convention et a voté la mort de Louis XVI au procès, à l'issue du procès de 1793. Et il a ensuite, donc, en tant que fervent républicain, servi en qualité d'ambassadeur de France, notamment en poste à Amsterdam, de ministre des Affaires étrangères, juste avant Talleyrand, et il a terminé sa carrière en tant que préfet et pas dans n'importe lequel des préfectures, puisqu'il a été en poste à Marseille, puis à Bordeaux, et il est mort en exercice à Bordeaux, c'est d'ailleurs toujours là qu'il est enterré. Et du côté maternel, Delacroix est issu d'une des plus grandes dynasties d'ébénistes parisiens, puisque son grand-père maternel, Jean-François Ébène, est l'auteur du chef-d'œuvre absolu de l'ébénisterie française, qui est l'âge d'or d'ailleurs de l'ébéniste française le XVIIIe siècle, puisque c'est lui qui a conçu le bureau, le grand bureau du roi Louis XV, qui trône dans le cabinet de travail du roi à Versailles, qui est un chef-d'œuvre à la fois d'ébénisterie et de mécanisme. Et la grand-mère maternelle de Delacroix s'est remariée ensuite, en seconde noce, avec Jean-Henri Risner, ébéniste également, et qui a continué à jouer le rôle de principal fournisseur de la cour à Versailles. Et l'une des tantes de la Croix, toujours du côté Risner, a servi comme dame d'atour de la reine Hortense sous le Premier Empire, et donc aussi a joué un rôle à la cour impériale. Donc ça, c'est pour les ancêtres, les parents, grands-parents, oncles et tantes. Mais le parcours était tout aussi brillant au sujet des frères et sœurs de Delacroix. Imaginez bien que lorsque vous étiez invité chez ce peintre, par exemple dans le dernier domicile qu'il a occupé, place Furstenberg, et qui est aujourd'hui le siège du musée national Eugène Delacroix, en arrivant, vous étiez loin d'avoir le sentiment d'arriver chez une espèce d'artiste bohème. Dans l'antichambre où on vous faisait attendre, vous étiez accueilli par ces deux portraits qui vous toisaient de très haut. À gauche, la sœur aînée de Delacroix, Henriette, qui a épousé Monsieur de Verninac, ambassadeur également, originaire de Souillac, d'ailleurs, tout près d'ici, et qui est ici portraiturée au summum de sa gloire par David. Rien d'autre que David, en 1799. Et à droite, c'est un des frères, le frère aîné de Delacroix, le plus âgé de la fratrie, Charles-Henri, aide-de-camp d'Eugène de Beauharnais, ici en lieutenant des chasseurs à cheval de la garde impériale, portraituré en 1804, qui a terminé ses carrières comme baron de l'Empire, maréchal de camp à la retraite, et commandeur de la Légion d'honneur. Donc vous voyez que arrivé en dernier, en petit frère, après tous ces illustres personnages, ça n'était pas un positionnement facile, et il faut peut-être, on comprend mieux par conséquent l'appétit de gloire. Il l'écrit lui-même dans son journal, « La gloire n'est pour moi pas un vain mot » dont il est habité dès le plus jeune âge. En décembre 1815, donc il a toujours 17 ans, je vous rappelle, il écrit par exemple à son ami Achille Piron, « Prie le ciel que je sois un grand homme ». Faute de pouvoir s'illustrer par les armes, puisque nous sommes maintenant sous la Restauration, dans l'Europe pacifiée du Congrès de Vienne, eh bien Delacroix est déterminé à se couvrir de gloire, mais par la peinture. Les temps sont favorables, puisque la place de chef de l'école de peinture française est à prendre. David, dont nous avons vu ici un très beau portrait, a dû partir en exil en 1816, puisque comme le père de Delacroix, il avait été député de la Convention régicide en 1793. Théodore Géricault, l'étoile montante de la peinture française, qui avait fait tant de bruit au salon 1819 en présentant son célèbre tableau du Radeau de la Méduse, meurt brutalement à 32 ans en 1824. Malgré un apprentissage auprès d'un peintre assez classique qui est Guérin, Delacroix n'est pas enclin à parcourir, disons, le cursus honorum obligé qui est celui des concours académiques. Plutôt que de s'essayer vainement au concours du prédrome, il préfère la distinction rapide et l'ascension fulgurante que peut permettre l'exposition publique au salon. Le salon qui tire son nom du Salon Carré du Louvre, c'est l'exposition annuelle, enfin bisannuelle sous la Restauration, d'art contemporain. Donc tous les deux ans, l'administration des Beaux-Arts, l'administration royale des Beaux-Arts, organise donc la plus grande exposition d'art contemporain, sculpteurs, peintres, graveurs sont invités, la plus importante de toute l'Europe, et Delacroix a bien compris que c'est grâce à cela que l'on se fait un nom, que l'on se fait connaître tout de suite, et si possible, par un coup d'éclat. Et il va attirer d'emblée l'attention par l'originalité de ses grands tableaux d'histoire, à commencer par leur sujet, qui sont tirés de textes horrifiques et sublimes d'auteurs considérés comme modernes à l'époque, comme Dante, dont il propose en 1822 la promenade de Dante et Virgile aux Enfers. Il y a aussi Lord Byron, qui lui inspire la mort de Sardanapale. Et il y a aussi l'actualité de l'élan libérateur des guerres d'indépendance, notamment la guerre d'indépendance des Grecs contre l'Empire turc ottoman, qui suscite la création d'un tableau que nous allons voir juste après, les scènes des massacres de Chios, au salon de 1824, mais aussi la Grèce, l'allégorie de la Grèce sur les ruines de Missolonghi, en 1826, un tableau qui est au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, et puis évidemment la célèbre Liberté dit dans le peuple, donc qui surfe, je dirais, sur la Révolution parisienne de 1830. Et l'audace de ces coups du sort lui réussit, puisque dès l'âge de 24 ans, Delacroix est déjà récompensé par des achats de l'État. L'État lui achète son premier tableau important, qui est Dante et Virgile aux Enfers, pour figurer, à côté des grands peintres, au musée du Luxembourg, qui vient d'être créé, qui est le premier musée d'art contemporain qui a été inventé en Europe, voulu par la volonté du roi Louis XVIII, et donc qui est en fait l'antichambre du Louvre, puisque le principe c'était que les artistes vivants sont exposés au musée du Luxembourg, et 10 ans après leur mort, si leur peinture est de qualité suffisante, et que leur postérité est réellement reconnue, eh bien, les tableaux sont reversés au musée du Louvre, ce panthéon des artistes dont je vous parlais tout à l'heure. En moins de 10 ans, Delacroix aura abordé tous les genres les plus nobles, l'histoire, l'allégorie, la bataille, les grands sujets littéraires. Il s'est fait un nom et il finit, bien malgré lui, par être reconnu comme le chef de file. Alors, on ne les appelle pas encore les romantiques, c'est un terme a posteriori. À l'époque, la critique d'art, ne sachant pas comment les caractériser, les appelait tout simplement les jeunes novateurs. Et alors, évidemment, ces œuvres sont tellement célèbres qu'on a envie de passer un peu vite pour faire découvrir aussi des versants moins connus de Delacroix. Mais il faut rappeler, par exemple, que la Liberté dit dans le peuple est d'une originalité sidérante pour l'époque, puisque c'est la première fois que l'on mélange l'allégorie, donc une représentation humaine d'une idée abstraite, donc l'idée de liberté, mais mélangée à une scène d'une cruauté, d'une âpreté réaliste effrayante, puisque c'est le spectacle macabre et révulsant d'une guerre civile que Delacroix met sous nos yeux, où se font face un soldat de la garde royale et un insurgé mort, un insurgé qui, en plus, pour lequel, disons, auquel Delacroix refuse même la beauté héroïque, disons, de la mort à l'antique, c'est-à-dire une mort belle, une mort presque heureuse. Non, c'est un cadavre raide dont on a volé sur le corps encore chaud les vêtements, les armes. Il a été dépouillé de son pantalon. Il lui reste une chaussette au pied et sa chemise est déchirée et ensanglantée. Donc il y a aussi cette horreur pour l'irrespect qui est donné aux morts dans ce vacarme, dans ce chaos que provoque toute guerre civile. Et on voit d'emblée le positionnement très original, l'ambiguïté, le caractère très très équivoque, de la Croix est enthousiasmé par cet élan de liberté, cet élan patriotique aussi, puisque c'est lors de ces journées des Trois Glorieuses que le drapeau tricolore refait surface, ce drapeau qui avait été censuré, interdit pendant 15 ans par la Restauration, sous les règnes de Louis XVIII et Charles X, parce que, rappelant trop la Révolution française et puis aussi l'époque napoléonienne. Donc il est porté et enthousiasmé par cela. Et d'ailleurs, ces trois couleurs ne se retrouvent pas seulement sur le drapeau. On les retrouve presque comme un étendard vivant sur ce personnage, la blouse bleue, la ceinture rouge et la chemise blanche. Et même ce personnage dont je vous parlais, ce cadavre, avec sa chaussette bleue, sa chemise blanche et le sang rouge vermillon qui coule de son crâne, et ça on ne peut le voir que de très près du tableau, approchez-vous la prochaine fois que vous irez au Louvre, on le voit très distinctement, ces trois couleurs sont partout, et en même temps, on est à la fois repoussé par ce spectacle donc de la dévastation, de la misère et de la mort. Alors ce thème de la guerre, il est effectivement très important dans les sujets choisis par Delacroix dans sa jeunesse, parce que, évidemment, représenter la guerre est devenu un enjeu majeur à cette époque. Il faut se souvenir qu'on est donc au lendemain d'une décennie d'exploits militaires de la grande armée napoléonienne, traduite évidemment dans quantité de grands tableaux de batailles signés par Gros, Guérin, Gérard, Géricault également. Mais après l'effondrement définitif de l'Empire, le régime de la Restauration, qui se porte garant de la paix conclue au Congrès de Vienne, eh bien, ne commande plus de peinture de bataille moderne. Delacroix, donc, de sa propre initiative, va se déporter hors de l'Europe occidentale et va rechercher, dans ce qui est alors aux confins de l'Europe, sur le sol grec, eh bien, un engagement pour la liberté qui se traduit donc dans des faits qui frappent l'imagination de l'Europe entière. Et à l'unisson de la jeunesse européenne libérale, de la croix enthousiasme pour les poèmes orientaux de Lord Byron, au style métaphorique et fragmentaire, dont les héros sont toujours ombrageux, ambigus, dévorés de remords, désireux de vengeance. Et il va aussi, alors que Delacroix n'a jamais mis les pieds en Grèce, entendons-nous bien, il va imaginer avec toute la force de son désir de voyage, eh bien une Grèce totalement nouvelle, une terre très contrastée aux très forts accents orientaux, puisqu'il ne faut pas oublier que voilà, c'est un pays, une culture qui a été sous domination ottomane et musulmane depuis plusieurs siècles. Donc ça a profondément infusé, évidemment, dans les costumes, dans les bijoux, dans les coiffures, dans les armes que portent ces Grecs. Et c'est ça aussi qui intéresse foncièrement Delacroix. Et il surprend beaucoup en proposant ce tableau, donc représentant les massacres de ce qu'on appelle le massacre de Sios. Sios, en fait, c'est le nom italien de l'île de Chios, qui est juste en face de la Turquie, qui a été livré en avril 1822 à la cruauté des troupes ottomanes en représailles d'actes de rébellion, livré pendant 2 mois donc à la tuerie, au massacre et à la prise d'otages des notables de l'île, que l'on voit au premier plan. Et finalement, ce qu'on remarque d'abord, c'est que Delacroix évite d'héroïser un personnage. Il y avait pourtant des figures, des leaders, pensons par exemple à Marcos Botsaris, ou même Lord Byron d'ailleurs, qui a été, et qui est mort à Missolonghi en 1826. Eh bien, il évite de personnaliser ce peuple. Il veut représenter un collectif dans sa souffrance, voué à la mort ou à l'esclavage, et dans une composition qui est centrifuge, puisque c'est à travers cette percée que l'on discerne à peine la scène de massacre en tant que telle. Ce que l'on voit au premier plan, c'est une scène d'attente, d'angoisse des otages. Et puis surtout, ce qui surprend, c'est que naturellement, on aurait attendu un déploiement à l'horizontale, Or, de la croix choisit un format vertical qui arrête l'action, qui crée comme un instantané et qui surtout permet de déployer une place énorme à ce ciel, mais un ciel qui est impavide. Sans aucun, il n'a même pas essayé d'évoquer un orage, quelque chose qui soit à l'unisson de ce qui se passe sur Terre. Non, la nature, elle est toujours aussi belle. On est en Méditerranée, il fait beau, il y a un ciel assez calme. Et donc, ce contraste recherché entre l'impassibilité de la nature face à la misère et l'horreur de la condition humaine, c'est quelque chose qu'il a trouvé aussi dans les poèmes de Lord Byron. Alors, et à côté, donc, vous voyez aussi un autre sujet byronien et qui montre ici le duel à mort entre le Djaour et le Pacha. Djaour, c'est le titre du poème oriental de Byron. C'est aussi le surnom que donnaient les Turcs aux infidèles chrétiens. Le Djaour a séduit l'esclave favorite du Pacha Hassan, qui se venge en la noyant, et fou de douleur, le Djaour attaque et tue le Pacha, ici, au pied du mont Yakoura, au centre de la Grèce, dans un duel brutal, où finalement les visages sont dissimulés derrière la vivacité des gestes. Seul un poignard glissé au sol qui désigne celui qui va finalement mourir. Alors, Delacroix a aussi, après le succès de cet épisode de la guerre d'indépendance grecque, l'État étant tout de même toujours, même s'il lui a acheté le tableau des massacres de Scio, l'État est toujours prudent et lorsqu'il lui passe commande, préfère plutôt commander à Delacroix des batailles du temps passé. Et même dans on se rend compte que même dans ces batailles anciennes, eh bien, la modernité refait surface. C'est le cas ici de cette grande bataille de Nancy, donc commandée par le roi Charles X pour être offerte à la ville de Nancy. Ça se passe en 1477. C'est la bataille au cours de laquelle est mort Charles le Téméraire, le dernier duc de Bourgogne. Et là encore, d'une part, Delacroix cherche à repousser dans les marges les protagonistes de cette histoire, puisque le duc de Lorraine se situe tout à droite et Charles le Téméraire, vous voyez, tombe quasiment hors du cadre en s'effondrant ici dans le coin en bas à gauche. Et ce qui domine là encore dans ce paysage enneigé, c'est ce ciel flamboyant qui reprend en réalité entièrement la composition et la structuration de la célèbre bataille d'Eylau, peinte par Gros, qui se déroulait dans les confins de la Prusse orientale, dans un paysage de neige, mais taché par des flots de sang. Un tableau qui avait été peint donc à peu près 20 ans auparavant. Et nous arrivons en 1827. Delacroix est à la veille de ses 30 ans. Il a déjà donc deux succès consécutifs au Salon, 1822-1824. Il a acquis assez d'assurance pour faire éclater au grand jour ses désirs, ses intuitions les plus personnelles, qui ont jusque-là mûri dans le secret de son atelier. C'est la mort de Sardanapale, qui est certainement la composition la plus folle, la plus accumulative, orgiaque et immorale qu'il ait osé peindre. Rappelons brièvement le sujet. C'est, nous voyons donc le Sardanapale. Alors, je vous montre ici non pas le tableau achevé, mais la réplique que Delacroix a peinte un peu plus tard, en petit format, puisque, nous verrons justement tout à l'heure, le tableau original qui est au Louvre est tellement englué sous des couches de vernis que pour moi il est absolument immontrable, mais qu'il fait actuellement l'objet d'une restauration dont je vais vous parler. Mais la vérité jusqu'à présent des couleurs, la fraîcheur de coloris et l'audace, eh bien, c'est à travers cette réplique conservée à Philadelphie que l'on pouvait le mieux la sentir. Alors, Sardanapale, donc, c'est ce roi, cet empereur assyrien légendaire en réalité, qui choisit d'échapper aux ennemis qui assiègent son palais en s'immolant par le feu, tout en haut d'un immense bûcher dans lequel il entraîne avec lui tout ce qui lui a procuré du plaisir durant son existence terrestre. Ses esclaves, ses concubines, ses chevaux, ses chiens, ses œuvres d'art, ses trésors. De la croix entasse dans un assemblage volontairement confus, saturé et mortifère tous les morceaux de peinture qu'il affectionne. Et tout cela est l'aboutissement justement de plusieurs années de travail et aussi de délectation à partir de l'étude du nu, et notamment du nu féminin, dans le secret de son atelier. La pulsion créatrice de Delacroix est en effet servie par une imagination qui est remarquablement cultivée, mais aussi par un vigoureux appétit pour la matière picturale et pour le corps. Cette gourmandise de la couleur fait intuitivement ses délices de tout ce qui est propice au déploiement des trésors de sa palette. Les trésors d'orfèvrerie, de textiles, les pelages des fauves, des chevaux arabes et la carnation palpitante des femmes. Alors ça s'explique d'abord par le tempérament sensuel du jeune artiste, chez qui le désir de possession charnelle est indissociable de la pulsion créatrice. Si vous lisez le journal de Delacroix, notamment celui qui tient au printemps 1824, il raconte, mais sans aucun complexe, ses relations sexuelles et tarifées avec les divers modèles féminins qu'il fait poser nus dans son atelier. Il y a cependant, par pudeur, un petit langage codé. Il faut savoir que lorsqu'il fait l'amour, il emploie le terme italien de chiavatura, qui est dérivé de chiave en italien, qui signifie la clé, en quelque sorte un tour de clé. Et l'association comme ça de la langue italienne avec l'amour charnel est un écho à tout un imaginaire qui est véhiculé par les romans de l'Arioste, les opéras bouffes de Rossini, mais aussi par la peinture particulièrement sensuelle des maîtres de la Renaissance vénitienne, à commencer par Véronèse ou Lambertus Trisse, dont on sent tout à fait l'influence qu'il a, donc il a étudié au Louvre, et dont on devine l'influence, par exemple, dans cette femme au perroquet qui pose nonchalamment dans des flots de satin, avec des jeux très, à la fois, virtuoses et assez comiques sur les taches de lumière qui viennent se poser sur le front, sur la poitrine, et qui viennent caresser le pied de cette jeune femme. Vous voyez ici comment, à partir aussi d'un nu analysé parfois de manière très crue sur le dispositif très très simple d'un lit de camp dans l'atelier, il va dériver des petits tableaux de teint libertins faits pour des amateurs qui se vendent un peu comme ça sous le manteau et qui illustrent des historiettes tirées souvent de l'histoire des dames galantes de Brantôme. Mais au-delà de cela, il faut savoir que sa passion, donc ses motifs fétiches que sont les nus, les textiles, les bijoux, il participe d'une refonte profonde des moyens expressifs de la peinture que veut Delacroix. On sort d'une période néoclassique où la théorie dominante, définie par Winckelmann au milieu du XVIIIe siècle, donnait sempiternellement pour référence absolue de beauté la sculpture en marbre, la mesure de toute chose, l'idéal des canons, et tout cela marié évidemment aux sources littéraires gréco-latines. Delacroix s'en émancipe radicalement, d'abord en allant étudier ses maîtres, les maîtres de la couleur, Rubens, Véronèse, au Louvre, et aussi en s'appuyant sur l'étude du modèle vivant dans l'atelier, pour créer une nouvelle grammaire expressive fondée sur la couleur. Il s'intéresse particulièrement au reflet des carnations des femmes métisses ou des hommes à la peau noire. Il va s'en servir pour inventer une nouvelle rhétorique des expressions et des émotions, et le plus beau morceau dans ce domaine, c'est cette jeune orpheline au cimetière où finalement tout repose, toute la narration, orpheline, cimetière, peu importe, en réalité, nous avons ici une étude faite en atelier, d'ailleurs qui prépare un des personnages de la scène des massacres de Sio, mais dans lequel finalement tout transparaît à travers la pulsation du corps, la transpiration, le brillant de la peau, la rougeur des joues, la saleté, la peau hâlée par le soleil, le froissement des matières textiles, l'humidité de l'œil. Bref, c'est avec la couleur, avec la peinture uniquement, que Delacroix parvient à convoyer les sentiments, les passions, ce que jusqu'à présent, pour lequel on privilégiait l'usage exclusif du dessin. Il le dit dans son journal en octobre 1822, « L'art du peintre est d'autant plus intime au cœur de l'homme qui le regarde qu'il est plus matériel. » Et donc, c'est par l'assemblage de toutes ces études de corps nus, de textiles, de bijoux, d'orfèvrerie, de pelage, de faux et de chevaux, que naît comme ça de manière cumulative ce chef-d'œuvre qui est Sardanapal, dont je vous montre ici une étude au pastel et puis une des premières esquisses à l'huile avant la réalisation du tableau final. Mais le public n'est pas prêt à accepter une telle liberté d'exécution. Au salon 1828, auquel a fait le tableau fait sa première apparition, le rejet est tellement virulent, tellement unanime, tant par la presse que par les autorités, que Delacroix se retrouve avec ce tableau sur les bras. Il mesure 4 mètres par 5, c'était évidemment fait pour entrer au musée, mais personne n'en veut. S'ouvre alors une période de doute qui amène Delacroix à s'interroger sur sa carrière, sur sa stratégie de carrière, et surtout à se méfier de l'excès de virtuosité, de cette infernale commodité de la brosse dont il parle dans son journal. Alors, simultanément à ses exploits, il faut tout de même parler, toujours dans cette première phase, qui se déroule à peu près donc de 1820 à 1833-34, Delacroix s'intéresse aussi à des genres considérés comme mineurs, c'est-à-dire donc en dessous de la peinture d'histoire, qui est le genre le plus noble parce qu'il demande le plus de travail, d'érudition, de préparation. On classifiait ordinairement le portrait, le paysage, la nature morte, la peinture animalière. Mais là aussi, il les aborde avec beaucoup de modernité, beaucoup d'audace, et notamment privilégiant la fusion, l'hybridation de ces genres. Vous remarquez par exemple ce magnifique portrait qui est combiné à un paysage. Même chose ici, cette nature morte au homard est curieusement mêlée à un paysage de la campagne nivernaise. C'est un tableau qui avait été peint pour la salle à manger du général Coëtlosquet dans son château nivernais. Et puis, encore plus surprenant peut-être, cette grande étude animalière de cette tigresse devant un grand paysage aussi. Une tigresse qui est repeinte sur une toile considérable, elle est aussi grande que nature, c'est donc quasiment un portrait d'apparat, comme on le ferait d'un prince ou bien d'une odalisque finalement. Et tout cela est inspiré, et Delacroix tire en même temps cet art de l'hybridation des genres, de la fusion, de l'exemple anglais. Parce que contrairement à la plupart aussi des peintres voyageurs, ce n'est pas vers l'Italie que le conduit ses pas, comme on l'attendrait, lui qui aime tant les peintres italiens de la Renaissance, eh bien c'est en Angleterre. Il faut dire qu'il avait été suivi par des aînés. Souvenons-nous que Watteau, un siècle plus tôt, était allé à Londres, mais beaucoup plus proche dans le temps, Géricault ou Eugène Isabey avaient fait aussi le voyage à Londres, attiré, il faut bien le dire, par le dynamisme du marché de l'art londonien, qui était particulièrement stimulant. Et c'est de là-bas, de l'art notamment des portraitistes anglais dans le sillage de Gainsborough ou de Reynolds que Delacroix tirait l'originalité par exemple de ce portrait, celui du baron Schwitter, qui est une sorte d'alter ego parce que le baron Schwitter avait le même âge que Delacroix. C'était aussi le fils d'un baron d'empire, un maréchal, mais contrairement à Delacroix, il était beaucoup plus riche et il pouvait se permettre une vie de dandy, de collectionneur entre Londres et Paris, tout en ayant aussi une activité de peintre, de portrait. quatrième flèche à l'arc de la croix, c'est l'activité de graveur et de lithographe. Il a commencé très jeune, disons pour des petits travaux alimentaires, quelques caricatures dans sa prime jeunesse, mais ses chefs-d'œuvre, il va les produire grâce aux commandes de Charles Mott, qui est l'éditeur et entrepreneur le plus inventif dans le domaine des illustrations littéraires à Paris, qui lui propose en 1826 de créer une série de 17 lithographies pour illustrer une nouvelle traduction française du Faust de Goethe. Alors Delacroix se jette tout de suite dans cette entreprise, d'une part parce qu'il est un grand lecteur, parce qu'il est très curieux de littérature étrangère. Il ne lit pas l'allemand, mais il est parfaitement bilingue en italien et en anglais. Et il est fasciné aussi par le monde fantastique, effrayant et féerique de ces littératures qui sont à l'opposé du classicisme, par exemple, du théâtre français. Mais son chef-d'œuvre, c'est peut-être moins dans, c'est moins chez Goethe que pour Shakespeare qui va l'accomplir, notamment cette représentation de Macbeth venue consulter les sorcières. Donc, on est au début de la tragédie de Macbeth de Shakespeare, où Delacroix propose d'emblée, avec un génie stupéfiant, une approche totalement nouvelle de la lithographie. Une technique qui elle-même est récente, hein. C'est seulement à partir de 1816-17 qu'elle est pratiquée à Paris. Et comment, au lieu de se servir du fond de papier blanc sur lequel il va tracer classiquement une figure de plus en plus modelée, de plus en plus sombre, eh bien il va crayonner toute la surface de la pierre, puisque lithographie c'est dessin sur pierre. Qui sert ensuite de matrice à l'impression. Il couvre tout le papier de crayon noir, il va ensuite gratter, comme un sculpteur, il va soustraire de la matière en grattant, et petit à petit, par ce peignage, par ce grattage, les figures vont émerger. Évidemment, ce qui est parfaitement cohérent avec une scène aussi sublime et fantastique que cette scène de magie noire. Alors, comme je vous le disais, donc Delacroix arrive néanmoins à l'aube de sa trentaine à un certain essoufflement, et la déception liée à Sardanapale est très cruelle pour lui. Alors il y a la respiration inespérée du voyage en Afrique du Nord, mais il faut bien insister sur le fait que c'est un voyage totalement imprévu. C'est une proposition qui lui est faite au Débeauté par le comte de Mornay, qui a été désigné par le nouveau roi Louis-Philippe en 1832, pour se rendre au Maroc, pour rassurer le sultan du Maroc, qui s'inquiète fort de voir l'Algérie voisine violemment conquise, militarisée et colonisée par la France. Et comme il est toujours de bon temps, depuis l'expédition de Napoléon en Égypte, de voyager en compagnie de savants et d'artistes, le comte de Mornay, par différents intermédiaires et recommandations, propose à Delacroix de l'emmener, et Delacroix qui accepte, parce que lui qui n'est pas très très entreprenant et très aventurier de caractère, il accepte puisqu'il est défrayé de tout, et surtout cette expédition se fait évidemment avec le maximum de sécurité. Ils ont un accompagnement armé, ils bénéficient de la protection diplomatique, et puis, évidemment, de tout un apparat d'interprètes et traducteurs qui les accompagnent. Alors, au cours de ce séjour, donc c'est une aubaine que Delacroix saisit par les cheveux, mais sans projet artistique prédéfini. Au cours de ce séjour, l'artiste recueille une masse considérable d'informations qui sont croquées dans ses carnets qu'il porte avec lui, qui sont annotées, aquarellées, complétées parfois au retour. Et ces carnets de voyage traduisent d'emblée, bien sûr, une fascination pour les architectures, pour la lumière, pour les costumes, pour les mœurs riches de contrastes et de couleurs. Mais d'emblée, ce qui frappe surtout Delacroix, c'est que ce déracinement hors de l'Europe, lui donne la sensation de voyager dans le temps. Il écrit à son ami, depuis Tanger, le 29 février, « Imagine-toi ce que c'est que de voir coucher au soleil, se promenant dans les rues ou raccommodant des savates, des personnages de consuls romains, des Catons, des Brutus. Les héros de David et compagnie feraient triste figure avec leurs membres de statues grecques couleur de rose à côté de ces véritables fils du soleil, qui, en revanche, portent le costume antique beaucoup mieux, je m'en flatte. » Et effectivement, en réalité, Delacroix interprète d'emblée tout ce qu'il voit comme une résurgence vivante et authentique des civilisations méditerranéennes de l'Antiquité. Et c'est ainsi que les scènes de vie quotidienne qu'il voit au Maghreb, donc principalement au Maroc, mais aussi en Algérie où il fait une courte incursion, eh bien, elles possèdent à ses yeux une noblesse qui les rendent aptes à être peintes. Parce qu'il faut bien se souvenir que Delacroix ne s'est jamais intéressé, et il ne s'intéressera jamais, à représenter, à peindre les ouvriers ou les paysans de France, de son temps. Ça, c'est quelque chose qui ne lui paraît pas intéressant, qui ne lui paraît pas stimulant pour sa peinture. Et c'est à travers le filtre, donc, antiquisant, historique, ethnographique des mœurs, donc des citadins ou des paysans du Maghreb, que là, la scène de genre, la peinture du quotidien peut rentrer et s'ajouter à la palette des sujets qu'il n'avait pas encore traités. Donc, ça donne lieu à des scènes, effectivement, qui soient d'extérieur, comme ces magnifiques fantasias, donc sont des entraînements militaires en plein air, dans les plaines, notamment devant la ville impériale de Meknès, des scènes aussi de fêtes et de réjouissances, alors non pas dans les maisons musulmanes, puisqu'ils n'avaient pas le droit en tant qu'étrangers et en plus chrétiens de rentrer dans les maisons musulmanes marocaines, en revanche ils pouvaient rentrer dans les maisons juives, donc c'est ici une noce juive à laquelle nous assistons et qui serait peinte exactement comme on peindrait un rassemblement dans l'atrium d'une villa gallo-romaine. Et puis, évidemment, lorsqu'il fait place à... Il peint en grand cette scène de vie, cette fois-ci, de femmes musulmanes en Algérie, puisque l'Algérie étant déjà conquise et colonisée sous puissance française, eh bien, un Français pouvait rentrer dans une maison musulmane, et notamment dans la partie la plus secrète réservée aux femmes. Et pour lui, c'est l'incarnation vivante du gynécée, c'est-à-dire que c'est partie des maisons athéniennes, des maisons de la Grèce antique, où les femmes également vivaient, travaillaient, discutaient entre elles. Alors, on l'a vu se lancer dans un sujet, sur une grande toile, l'imposer au salon au prix d'une bataille médiatique, rentrer de force au musée, telle était la stratégie initiale de Delacroix. Couronnée de succès en 1822 et en 1824, elle marque le pas, nous l'avons vu, à partir de l'échec cuisant de la mort de Sardanapale en 1828. L'administration royale continue à lui passer des commandes, mais cette fois-ci pour des lieux précis, des églises, des bâtiments publics, des musées de province, ce qui permet de maintenir son soutien à l'artiste tout en bridant son audace. Le changement de régime politique en 1830, le voyage au Maroc en 1832 lui apporte de nouveaux sujets, mais n'offre pas en eux-mêmes de véritables sources de renouvellement. C'est en 1833 que la rupture, à mon avis, s'effectue avec la première commande de grands décors murals qui lui est passée par Thiers, Adolphe Thiers, ministre des Travaux publics, et c'est le décor du Salon du Roi au Palais Bourbon, donc une sorte de salle dédiée aux visites lorsque le roi exceptionnellement rendait visite aux parlementaires. Et elle sera suivie de beaucoup d'autres pour la bibliothèque des Pairs de France au Palais du Luxembourg, pour la chapelle de la Vierge à l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, pour la galerie d'Apollon au palais du Louvre, Et ça se terminera à la fin de la visite de la croix par la chapelle des saints anges à l'église Saint-Sulpice. Malgré l'épuisement que représente ce travail énorme, de la croix peint, enfin, il se prend vraiment de passion pour cette activité. Contrairement au destin parfois erratique ou fragile des peintures de chevalet, il sait que la peinture murale lui permet de faire adhérer durablement son art à un prestigieux monument au cœur de Paris, lié à des grandes institutions éternelles, l'église, le parlement, la municipalité, et l'oblige aussi à repenser sa peinture en fonction des défis architecturaux et thématiques que pose chaque lieu. Une bibliothèque, par exemple, demandera une palette lumineuse, des compositions calmes, un programme iconographique qui met en valeur le rôle civilisateur des grands écrivains. Un salon de réception, lui, invitera à déployer, avec une palette opulente, comme ici dans le salon du roi du Palais Bourbon, des allégories qui célèbrent la prospérité du royaume. Une chapelle, en revanche, exigera de se mettre à l'unisson des souffrances et du besoin de réconfort des fidèles. Et à chaque fois, Delacroix fera aussi l'effort de s'insérer, lorsqu'on lui demande de s'insérer dans un décor préexistant, notamment un monument historique, eh bien, il s'appliquera par un dialogue avec les maîtres anciens au difficile exercice de se fondre dans un environnement tout en préservant sa singularité. Alors, cependant, Delacroix est conscient de la limite de ses commandes, puisqu'elles sont inamovibles par nature, elles n'ont pas été gravées, et ces grands décors sont parfois difficilement accessibles. Et donc, il comprend qu'il faut continuer, pendant ce temps, à exposer chaque année au salon, dans les expositions publiques. Et il, donc, à chaque fois, en écho à chaque grande commande murale, il proposera au salon des peintures qui informent ainsi le public et la presse des mutations que connaît sa peinture au contact de l'architecture et de la tradition. Par exemple, on constate que ces tableaux assez surprenants et déstabilisants du Saint-Sébastien, soigné par Irène, présenté au salon 1836, où la Médée furieuse s'apprêtant à tuer les enfants qu'elle a eus de Jason, présenté 2 ans plus tard au salon 1838, eh bien, se comprennent comme des excroissances, comme des continuations de l'exercice de ces grands corps monumentaux qui s'inséraient dans le décor du Palais Bourbon. Et c'est ainsi aussi que se comprennent, cette fois-ci, les compositions exubérantes néo-baroques que j'évoquais tout à l'heure, qui apparaissent donc à la fin des années 1840 et au début des années 1850, ces bouquets de fleurs surprenants, un exercice auquel Delacroix ne s'était jamais consacré auparavant, qui rappellent les grandes compositions décoratives florales peintes par les Monnoyer ou les Blin de Fontenay pour le palais de Versailles, notamment pour les dessus de portes des grands appartements de Versailles et de Trianon, ou bien ces chasses au lion dont vous voyez ici l'un des plus beaux exemplaires, malheureusement amputé d'un tiers de la composition, ce qui explique ces surprenantes personnages coupés ici, lors de l'incendie accidentel du musée des Beaux-Arts de Bordeaux en 1870, donc ce n'est que les 2/3, disons, restants qui sont aujourd'hui conservés, eh bien toutes ces compositions profuses, exubérantes et tourbillonnantes, on les comprend beaucoup mieux lorsqu'on se rend compte qu'en fait, elles sont contemporaines de la commande du plafond de Apollon, vainqueur du serpent Python, donc Apollon, dieu de la civilisation, des arts et du soleil, tuant le mal sous le regard de l'Olympe, des dieux de l'Olympe réunis autour de lui. C'est une commande extrêmement difficile, qui est un défi particulier pour Delacroix, puisque d'une part, eh bien, c'est pour le Louvre, c'est une composition qui se place au centre de la galerie d'Apollon, voulue par Louis XIV, prototype de ce que sera la galerie des glaces de Versailles, mais qui est restée inachevée à cause du déménagement de la cour de Paris à Versailles en 1682. Et donc, c'est seulement au milieu du XIXe siècle, la Deuxième République, décide de terminer, d'achever ce décor. Elle fait appel à Delacroix, mais avec la difficulté double, c'est-à-dire de proposer un véritable plafond, c'est-à-dire une composition plafonnante qui est faite pour être vue de dessous et qui s'harmonise parfaitement avec un décor sculpté et doré très riche qui préexiste, qui est déjà là depuis le XVIIe siècle. Donc Delacroix doit peindre aux côtés de Charles Lebrun à deux siècles d'intervalle. Il le réussit parfaitement et finalement il va dépasser l'exercice en livrant toutes ces compositions vertigineuses, virtuoses, tourbillonnantes, à la fois donc soit combinant des fleurs ensemble dans ces magnifiques compositions florales, ou combinant des humains, des animaux ensemble, comme c'est le cas par exemple de ce, alors ici vous avez une chasse au lion entière, complète, qui n'a pas brûlé, et puis ici en plus petit, mais alors en hyper dense, hyper concentré, un homme, un cheval et un lion dans un enchevêtrement absolument vertigineux. Et simultanément à cela, nous sommes toujours à la fin des années 1840, vous avez aussi, de manière très surprenante, des tableaux religieux d'une austérité, d'une intensité doloriste étonnante, notamment ce Christ en croix, magnifique, inspiré directement de Prudhon, ou bien cette déploration sublime sur la mort du Christ, le Christ donc qui s'apprête à être mis au tombeau, conservé au Musée des Beaux-Arts de Boston, et qui reprend un schéma notamment de Rubens, mais aussi de Van Dyck. Alors ce sont des exemples parfaitement aboutis, réussis, inspirés donc par le regard sur les maîtres, qui ne sont pas des premières, mais les essais que Delacroix avait osé un petit peu plus tôt, vers 1835-36, c'était beaucoup moins sérieux. Quand on voit ces Madeleines Toussaint dehors en train de se trémousser au pied de la croix, autant dire que le curé de l'église de Vannes, qui a vu arriver ce tableau dans son église, envoyé, expédié par le ministère de l'Intérieur, dans son émile, il a eu vite fait de l'expédier dans le grenier. Mais ces compositions, donc beaucoup plus réussies, beaucoup plus tenues, qui touchent l'émotion, eh bien, elles s'expliquent en réalité par, là aussi, la concomitance avec une grande commande de décors murales. Ça a l'air comme ça d'un tableau, mais en réalité, c'est peint directement sur le mur. Le cadre doré n'est qu'une un trompe-l'œil. C'est cette magnifique Pietà où Delacroix a l'idée géniale de donner à la Vierge, donc dans le giron duquel repose le corps mort du Christ, la Vierge reproduit dans son geste de déploration le crucifiement de son Fils. Nous avons au Louvre une des esquisses préparatoires qui sont conservées, et dont on voit aussi l'inspiration prise à la célèbre Pietà de Rosso Fiorentino, donc qui était conservée déjà au Louvre au temps de Delacroix, un chef-d'œuvre de la Renaissance florentine italienne. Et à partir de cela, eh bien Delacroix va déployer quantité de variations, de reprises, avec à chaque fois des petites modifications, des ajouts, des retraits, des enrichissements qui s'entendent comme autant d'exercices de style. C'est là que on est aussi un petit peu déstabilisé parce qu'on se demande exactement pourquoi il le fait. Alors la première explication, c'est de se dire oui, c'est sans doute pour répondre à une demande commerciale. De plus en plus, il y a plus d'amateurs de peinture de Delacroix, donc des marchands ou des collectionneurs qui voudraient, disons, avoir en petit et en réplication, en répétition, les grandes compositions qui ont fait le succès de l'artiste. Mais il y a plus sérieusement sans doute des motivations moins bassement commerciales, et c'est tout simplement le plaisir que Delacroix a, avec l'âge, à revenir sur ses pas, à en quelque sorte réitérer, essayer de retrouver des sensations de jeunesse. Et ça se traduit, par exemple, enfin, on le perçoit très bien à travers toutes ces variations qu'il fait, qu'il brode presque, à partir de Hamlet et Horatio au cimetière, une des grandes scènes phares hein, de la tragédie d'Hamlet de Shakespeare, cette scène où donc Hamlet, en attendant l'enterrement d'Ophélie, eh bien, tombe par hasard sur le crâne du bouffon de la cour qui égayait sa jeunesse, le crâne de Yorick, qui lui inspire évidemment toute cette méditation mélancolique sur la mort, to be or not to be. Bien, Delacroix a vu Hamlet pour la première fois à Paris au théâtre de l'Odéon en 1827, interprété en anglais d'ailleurs, par une troupe de comédiens londoniens venus spécialement, et il en avait tiré une petite lithographie d'abord. Et puis, 6 ans plus tard, il reprend le même sujet, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus monumentale, dépouillée, solennelle, dans une composition qui est assez étonnante en plus parce que tout le contexte, notamment la procession funéraire, disparaît. C'est ce moment dont on vous parlait, dont je vous parlais avec ces grands décors monumentaux, donc ce désir tout d'un coup de silence, de solennité, de monumentalité. Il va reprendre le même sujet 4 ans plus tard, où cette fois-ci apparaissent les fossoyeurs avec lesquels il y a un dialogue est rétabli, donc c'est beaucoup plus narratif, beaucoup plus pittoresque, avec la peau rouge hâlée du torse de cet ouvrier. Il va le traduire d'ailleurs en lithographie, selon un procédé de miroir. Et puis beaucoup plus tard encore, en 1859, dans un petit tableau, il va s'amuser à repartir de la gravure de 1828. Donc avec 30 ans d'écart, il va s'amuser à reprendre le même sujet dans la même composition, mais cette fois-ci, Hamlet porte une barbe parce que c'est la barbe que porte l'acteur Rouvière dans la dernière mise en scène qui avait lieu à Paris dans les années 50, contrairement à l'acteur Campbell qui avait interprété Hamlet glabre dans la mise en scène de l'Odéon en 1827. Vous voyez comment se mêle la temporalité, le retour sur lui-même, le plaisir du souvenir dans le processus créatif à partir de ce moment de la carrière de Delacroix. Alors justement, ce retour en arrière, ce regard rétrospectif, Delacroix en bénéficie aussi de l'extérieur, c'est-à-dire de la part des autorités. Nous arrivons en 1855, le Second Empire triomphant veut impressionner le monde entier en organisant une exposition universelle pour concurrencer l'autre grande puissance industrielle et coloniale qui est l'Angleterre. Et à cette occasion, on décide de marquer un grand coup et de prouver la supériorité de l'école française de peinture en réservant spécialement à 3 peintres le privilège exceptionnel de présenter une rétrospective de leur œuvre, Ingres, Horace Vernet et Eugène Delacroix, dont vous retrouvez ici tout l'œuvre peint, rassemblée dans une seule et même salle. Ça devait être une expérience étonnante, parce que c'est la première fois en fait qu'un artiste européen bénéficie de ce privilège d'une rétrospective. Il n'y a pas d'exemple plus tôt. Et vous retrouvez d'ailleurs, par exemple, ici au centre de la salle, les massacres de Sceaux, ou la Médée, par exemple, ici. Et là, Dante et Virgile aux enfers. Là, c'est la continence de... Non, pardon. Trajan, voilà. L'entrée de Trajan, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est un très grand tableau conservé à Rouen. Alors, tout le monde est ébloui, tout le monde est ravi de voir Delacroix flamboyant, les grands formats, les grosses machines qui ont fait les grandes heures du romantisme et de la carrière de Delacroix. Mais, et donc il est consacré, il est sacré par la critique, par le public, ce qui lui permet enfin, 2 ans après, en 1857, d'être élu à l'Académie des Beaux-Arts, mais vraiment à l'usure, après 7 échecs consécutifs. Et encore, l'Académie, dans sa mesquinerie, l'admet, mais s'arrange pour lui refuser le droit d'exercer un professorat à l'école des Beaux-Arts. C'est pour ça que Delacroix, privé d'enseignement, va essayer de concevoir chez lui un dictionnaire des Beaux-Arts qui devait être finalement la manière dont il pouvait transmettre son savoir-faire et sa vision de la pratique artistique. Donc, triomphe, en 1855, il est presque d'ailleurs, il peut mourir, il aurait pu mourir juste après, il serait mort, en apothéose. Mais il revient, 4 ans plus tard, au salon 1859, et là, c'est un échec total. Personne ne comprend ce qu'est devenu Delacroix. On est consterné par le niveau de sénilité, de médiocrité de ce qu'il propose. Mais vraiment, quand on relit les critiques, on est stupéfait de la violence des attaques. Est-ce que Delacroix est encore vivant ? Se demande Maxime Ducamp, par exemple, avec beaucoup de méchanceté. Est-ce que sa main ne tremblerait pas et est-ce que son esprit est encore là ? On ne comprend pas pourquoi il revient avec des petits tableaux, avec des sujets, soit qu'il a déjà fait X fois, soit des sujets qui sortent de nulle part, c'est-à-dire des romans de Walter Scott que plus personne ne lit depuis 30 ans, comme Ivanhoé ici, avec l'enlèvement de Rebecca, ou bien Herminie chez les bergers, un sujet qu'on ne peint plus depuis l'époque baroque, parce qu'il est tiré de la Jérusalem délivrée du Tasse, donc vraiment des sujets très rares que plus personne ne connaît, avec des personnages qui sont trop petits, qui sont difformes, tout ça a l'air presque sortir de la cervelle d'un enfant, c'est trop naïf, c'est trop narratif, et on se demande vraiment s'il n'a pas perdu la main. Regardez par exemple cette comparaison entre la Rebecca proposée donc au salon 1859 et ce qu'il en avait fait 13 ans auparavant, en 1846, qui est conservée à New York. Là, on a Delacroix, on a ce tourbillonnement, cet enchevêtrement du cheval, des corps féminins, masculins, la brillance des textiles, la profondeur de champ avec le Ivanhoé derrière, et puis le chemin qui mène à la forteresse en feu. Et là, au contraire, quelque chose de bizarre. Rebecca a l'air beaucoup trop petite, elle se tortille comme un asticot portée par Ivanhoé, tandis que la forteresse prend beaucoup trop d'importance, elle a presque un aspect anthropomorphe, elle a l'air de hurler et de cracher de la fumée par sa bouche grande ouverte. Bref, on se demande si l'artiste n'est pas retombé en enfance. Alors, il faut d'abord comprendre que tout le monde entier, la scène artistique a profondément changé autour de Delacroix. C'est la révolution réaliste qui prévaut désormais. Et celui qui crève l'écran désormais, c'est Courbet. Et on voit le positionnement volontairement très, très extérieur que prend Delacroix vis-à-vis de tout cela. Regardez, par rapport à cette terrible baigneuse si scandaleuse que Courbet avait proposée au salon 1853, la réponse de Delacroix, avec ses baigneuses, des baigneuses turques, très sensuelles, donc qui sont inspirées des odalisques turques, mais tout ça peint à la manière des fêtes galantes de Watteau, avec sculptures rostrenières, et puis tout ça dans une forêt qui ressemble beaucoup plus à Fontainebleau que aux forêts du Bosphore. Bref, Delacroix prend volontairement le contre-pied du réalisme. Une peinture qu'en tant que peintre, il apprécie, il est stupéfait par la technicité de Courbet, qu'il va voir au pavillon du réalisme en marge de l'exposition universelle de 1855, mais dont il ne comprend pas l'utilité. Pour lui, ce sont des fragments de réalisme, d'accord, mais qui sont vains parce que ça ne raconte rien, parce que ça n'illustre pas un grand texte de poésie ou de littérature humaniste, ou parce que ça ne raconte pas une tradition, ça ne véhicule pas d'imaginaire transmis par les maîtres de la Renaissance ou par Rubens. Autre exemple, de la singularité de Delacroix dans ces années 1850, ce magnifique tableau qui est peu connu, mais à mon avis sous-estimé, Marfiz, conservé au musée de Boston, de Baltimore, pardon. Là aussi un sujet extrêmement rare, puisqu'il est tiré, là encore, de la Jérusalem délivrée du Tasse. Marfiz, c'est une femme qui s'est transformée, qui a décidé d'être un chevalier, sans peur et sans reproche, et dans ses pérégrinations, elle a pris en croupe Gabrine, une vieille femme, mais qui lui a fait pitié, sauf qu'en route, il rencontre un vrai chevalier homme qui porte en croupe sa maîtresse, et comme ce chevalier est très moqueur, ils entrent en duel. Marfiz le désarçonne, il tombe au sol, le cheval s'enfuit, et tandis que la maîtresse moqueuse est obligée de se déshabiller, d'offrir de force tous ses atours à la vieille Gabrine. Alors, avec beaucoup de nonchalance et d'humour, Delacroix imagine un striptease au milieu des bois, mais c'est une peinture qui est en réalité extrêmement informée, extrêmement nourrie de références, puisque on y trouve l'écho notamment du Jugement de Paris peint par Rubens avec ce dos nu dans les bois. On retrouve aussi un écho de Van Dyck avec Saint Martin partageant son manteau, qui est repris quasiment textuellement dans la figure en armure de Marfiz. Le tout aussi combiné avec une étude de dos que Delacroix avait gravée dans sa jeunesse, qui réutilise à la verticale. Et puis, les impressions, ces études faites en forêt de Sénart, à côté de sa maison de campagne de Champs-Rosaire, en Seine-et-Marne, qui lui servent donc à ce décor magnifique où vraiment on sent la lumière du soleil qui pénètre à travers les frondaisons. Donc vous voyez que derrière la simplicité, l'humour, le décalage de ce tableau, il y a un travail de fusion, de combinaison, de souvenir qui est extrêmement complexe. Et c'est pareil avec d'autres scènes, notamment par exemple ces chevaux ou cette scène de donc ces chevaux sortant de l'eau ou ces pêcheurs s'apprêtant à rentrer à Meknès, mais que Delacroix imagine mais 30 ans après son voyage au Maroc, qui n'avait duré que 6 mois, et qui sont en réalité nourris d'études magnifiques à l'aquarelle ou au pastel que Delacroix peint chaque été à Dieppe, là où il se rend désormais en vacances. Et puis, en retour, ces scènes vont aussi nourrir des tableaux religieux, comme ici Jésus et les apôtres sur le lac de Jésus calmant la tempête sur le lac de Gethsémanie, ou bien un épisode du Don Juan de Byron, les naufragés tirant au sort celui qui sera dévoré par les autres, dans cette scène tragique, mais située exactement dans le même contexte que cette magnifique étude de bord de mer peinte à Dieppe à l'été 1852. Et en réalité, on se rend compte que Delacroix, désormais, fait reposer quasiment intégralement sa création sur un travail de souvenir. Il se déprend petit à petit de la réalité qui l'entoure. Il ne cherche plus du tout à trouver des sujets originaux, des sujets modernes, mais son originalité, sa singularité, il va la cultiver en donc faisant appel uniquement à ses souvenirs. Et pourquoi le souvenir? Parce que le souvenir, c'est quelque chose qui est propre à chacun d'entre nous. Nous avons chacun nos souvenirs d'enfance, de jeunesse. Le souvenir a un effet filtrant. On retient de nos enfances uniquement ce qui est le plus merveilleux, ce qui nous enchante, ce que nous plaisons à nous ressouvenir. Et puis, le souvenir aussi a une vertu unificatrice. Vous avez tous, par exemple, lié un parfum de votre enfance avec un lieu, ou bien, les odeurs de la cuisine de votre grand-mère liées avec une musique qu'elle se passait dans sa cuisine, ou bien une image d'un angle de jardin. Bref, tout ça se mélange et devient indissociable dans votre mémoire. Et tout ça, ces vertus de la mémoire, Delacroix les expérimente, il les note de plus en plus dans son journal, Et c'est finalement, il se rend compte que c'est le rempart le plus sûr à la préservation de sa singularité, de son originalité, dans un monde qui est envahi par la photographie et par le réalisme le plus cru. Donc, la synthèse de cette prise de conscience, on l'a ici par exemple dans ce tableau qui est à Londres, qui représente Ovide chez les Scythes, Ovide, ce grand poète des métamorphoses ou de l'art d'aimé, que l'empereur Auguste avait chassé de Rome, qui trouve refuge sur les rives de la mer Noire, aux confins de peut-être de la Bulgarie actuelle. Et ce qui est frappant, c'est de voir la manière aussi dont il y a une sorte de réconciliation entre l'artiste solitaire, isolé, métaphore de la situation de la croix, qui retrouve finalement plus de respect, de tendresse et de délicatesse de la part de ces barbares, de ces rustres, de ces paysans des confins de l'Europe, que de la part de l'élite raffinée romaine. Et c'est un peu d'ailleurs le même cheminement que fait Delacroix lorsqu'il se réfugie dans sa campagne auprès d'une femme très simple, sa gouvernante, Jenny Le Guillou, qui a pris soin de lui toute sa vie et qui sera à ses côtés jusqu'à ses derniers instants. Et il peint entièrement de mémoire, sans s'appuyer désormais sur des études sur le motif, tout ce qu'il sait peindre et surtout tout ce qu'il aime peindre. Ces paysages d'émeraude et de turquoise, les chevaux, on ne s'explique pas autrement la présence énorme de cette jument en premier plan, des nus, des drapés, des chiens, des chevaux, bref, voilà, c'est une sorte de tableau microcosme qui résume la manière dont désormais il se balade dans sa photothèque, dans son iconothèque mentale. Et ce sont d'ailleurs les derniers mots qu'il écrit dans son journal, fidèle d'ailleurs à un esprit très voltairien, de la croix cultive le jardin de son imagination, qui se matérialise autant dans ses microcosmes peints sur toile que dans le jardin qu'il cultive dans son atelier, donc l'atelier qu'il a fait construire à la fin de sa vie dans le jardin de son appartement Place Furstenberg, dans le faubourg Saint-Germain, et qui a été récemment d'ailleurs restitué dans l'état d'origine, avec les essences d'arbres, avec les espèces florales qui étaient celles qu'il avait choisies, avec un jardinier, et puis aussi donc ce jardin de champs rosés dont je vous parlais, dont on conserve par exemple ce magnifique pastel offert à Jenny Le Guillou, sa fidèle amie, confidente, protectrice, gouvernante, donc dont je vous parlais. Delacroix cultive ainsi son jardin. Il l'écrit dans les dernières pages de son journal. Le peintre se meut dans son domaine et il nous y convie pour offrir à son gré une fête pour l'œil. Et donc, finalement, quand on retrouve la première phrase que je vous citais en introduction, on se rend compte donc de la place que Delacroix, la conscience historique de Delacroix, qu'est-ce que je veux laisser, qu'est-ce qui doit survivre à ma mort, mais en même temps avec de l'humour, puisque ce que je vous ai caché au début de l'intervention, c'est qu'après avoir dit « vous me traitez comme on ne traite que les grands morts », il complète en disant « vous me faites rougir », tout en me plaisant beaucoup, « nous sommes faits comme ça ». Donc il avait aussi évidemment un certain écart, une certaine ironie qui s'exerçait aussi sur lui-même. Alors, je vous l'ai promis, nous allons aussi en sorte de conclusion nous attarder sur la matérialité de la peinture de Delacroix à la faveur des grandes restaurations qui marquent vraiment la décennie actuelle et qui font place à une véritable renaissance de l'artiste. Je vous ai parlé de Saint-Denis du Saint-Sacrement, puisque c'est la ville de Paris qui a ouvert le bal en restaurant les trois grandes œuvres qu'elle conserve dans ses églises. Et on a été tous frappés, vraiment, quand on est monté sur l'échafaudage et que la restauratrice a retiré toute la crasse des cierges, la suie accumulée, les vernis jaunis, eh bien, on a découvert, par exemple, l'incroyable contraste entre le rouge vermillon des yeux de la Madeleine et puis la couleur opposée, qui est cette tache verte d'une radicalité époustouflante que Matisse lui-même n'a pas su faire avant l'âge de ses 40 ans, eh bien, sur le visage du Christ juste à côté. Et le Louvre, donc, a emboîté le pas. Depuis 2019, nous avons engagé une restauration très importante des grands formats, vraiment les plus iconiques de la carrière de Delacroix. Je crois qu'il y a 3 ans, je vous avais montré un peu en avant-première les débuts de cette restauration des massacres de Sceaux. Comme dans toute restauration, on commence par des tests, et vous, le premier a été fait ici, pour que vous localisiez bien, et vous voyez à quel point, en retirant petit à petit les strates de vernis, on a été stupéfait de la blancheur, de l'intensité de ce sol qui n'était pas du sable, mais en réalité de la craie, et puis surtout la virulence de ces bleus intenses. En découvrant petit à petit le vernis, ici à gauche nettoyé, ici avant nettoyage, on voit apparaître la richesse chromatique des carnations, avec du rouge intense dans les ombres, avec ses reflets bleuâtres ici sur les côtes. Tout ça était invisible, masqué par cet écran de vernis oxydé. Et voilà le résultat après restauration. Ce n'est plus le même tableau. On se rend compte désormais beaucoup plus de l'importance, notamment du bleu, que joue le bleu dans ce tableau, dans l'infiniment grand, mais aussi dans l'infiniment petit. Lorsqu'on examine l'avant-bras du personnage qui est ici, cette femme qui implore le ciel, eh bien, on voit que non seulement tout le bras, la partie éclairée, est traitée en bleu et en rose, mais que l'ombre projetée de la manche sur le bras, elle est traitée avec des juxtapositions d'une audace inouïe, de rouge vermillon et de vert, qui sont deux couleurs complémentaires. C'est ça qui crée la vibration des ombres, bien avant les leçons de contraste simultané des couleurs qui seront véhiculées et enseignées par le chimiste Chevreul. Autre restauration spectaculaire qui a suivi en 2021, les femmes d'Alger, ici avant, ici après. Là, cette fois-ci, une œuvre d'une beaucoup plus grande délicatesse des textiles, avec ici, donc vous voyez la distinction que l'on fait beaucoup mieux entre le raffinement blanc du coton d'Égypte de l'algéroise riche au centre et puis le coton beaucoup plus, peut-être le lin plus rustique porté par la servante noire. Ici, pareil, avant, ici à gauche, avant restauration, ici pas encore nettoyé, on voit par exemple que dans le décolleté, la peau est rose et avec des légères touches vertes, vert amande, dans la demi-pénombre projetée par cette mousseline lamée qu'elle porte sous son boléro de velours vert, puis avec le détail charmant du petit cordon rose tendre de la montre gousset portée à la taille. Ici, le détail de la main qui montre comment Delacroix arrive à modeler les chairs par la couleur et non pas par la valeur. Vous voyez cette touche de rouge vermillon suivie d'un vert qui est le reflet du pantalon, qui se reflète dans la main, et c'est ça qui fait tourner, là, qui vraiment donne la sensation de relief, de volume de la main. Et puis évidemment, l'incroyable richesse des textures entre ce velours ciselé turc extrêmement grumeleux, et puis le soyeux de ces brocarts ou bien de ce linge extrêmement fin. Et puis chaque objet vit de sa propre vie désormais, les mules, les tapis, le narguilé, le brasero, tout cela, il y a une délicatesse de l'harmonie qui ressurgit. Et puis désormais, celui qui passe sur le billard, c'est la mort de Sardanapale. Je vous montre ici quelques photos pour vous rendiez compte aussi de tout le travail logistique que cela suppose, parce que c'est un format considérable, il mesure 4 mètres par 5, il faut d'abord le décrocher avec le talent et l'expertise des installateurs du Louvre, qui sont quasiment les seuls à détenir ce savoir-faire. Il faut le décadrer, il faut ensuite le redresser sans son cadre, mais protéger les coutures, puisque l'œuvre est constituée de 3 laits de toile assemblées. Il faut protéger les coutures par un papier de protection que le restaurateur pose ici. Ensuite, eh bien, comme l'œuvre est trop grande pour rentrer dans un atelier classique et pour prendre prendre les monts de charge, il a fallu la rouler sur ce grand cylindre. Une fois qu'elle a pris le mont de charge, on la redéroule sur le châssis. Vous voyez, c'est très impressionnant comme ça, mais si c'est fait par des professionnels, il n'y a aucun risque. Et puis, donc, une fois arrivé à l'atelier, les essais. Et là, encore une fois, on est stupéfait de ce qu'on trouve. On s'imaginait une toile usée, abîmée, vous voyez, avec des fortes irrégularités. Mais non, tout ça, c'était simplement le vernis. Mais quand vous le retirez, les premières fenêtres qu'on a ouvertes nous donnent une fraîcheur absolument étonnante, et puis avec un traitement de la peinture à l'huile qui s'approche presque du pastel. Ça a été la grande stupéfaction. Et voici ce que ça donne petit à petit quand on déshabille les figures. Donc là, c'est des photos extrêmement récentes, hein, qui datent du mois dernier. Donc le processus est toujours en cours. Vous voyez ici aussi avant, après, avant, après. Et donc c'est sur cette petite mule très voilà qui nous invite à en découvrir toujours davantage que je vous remercie de votre attention. Et puis évidemment, je vous invite, quand la restauration sera terminée, probablement donc à la fin du printemps prochain, à venir l'admirer au Louvre. Merci.
Bon, eh ben, merci beaucoup, bravo pour cette exposition et de cette conférence qui nous a comblés, et vous terminez en nous montrant le travail qui est fait au Louvre pour restaurer tous ces tableaux. Et c'est vrai que parfois, quand on passe devant, la quantité de vernis fait que parfois on se dit, tiens, ça donne l'impression parfois de vieux tableaux alors que ça n'en est pas du tout, voilà. Et c'est ce travail qui est fait formidable. Il y a combien de personnes qui travaillent comme ça sur un tableau?
Là, actuellement, c'est une équipe de 8 restaurateurs au total, 4 qui s'occupent de la surface peinte et 4 qui s'occupent de la toile elle-même, du support.
Parce que le support a aussi besoin d'être...
Tout à fait. D'être soutenu, d'être en fait rentoilé, c'est-à-dire renouveler la toile de renfort qui est collée à l'arrière.
Bon, j'avais lu quelque chose, c'est certainement faux, qui disait que de la croix peignait trop vite.
Oui et non.
Trop vite, effectivement, sans tenir compte suffisamment de la technique. Et de...
Alors, si, il peint effectivement parfois dans la précipitation, ça c'est vrai, mais on le sait, il le raconte lui-même. Hein, dans le journal de 1822, par exemple, il raconte à quel point il est en retard, pour l'exposition annuelle. Il doit absolument être prêt pour tel jour, tel mois, et que, voilà, il travaille. Donc, parfois, ça peut créer quelques désordres quand on ne respecte pas suffisamment les temps de séchage entre plusieurs couches accumulées de peinture. Parfois, quand celle du dessus sèche trop vite par rapport à celle du dessous, ça peut créer des gerçures, des craquelures, ce qu'on appelle des craquelures prématurées, qui apparaissent assez vite, hein, dès les premières semaines ou mois qui suivent l'exécution du tableau. Mais bon, ça n'est pas, chez Delacroix, ça n'est pas dramatique, ça peut, on en rencontre parfois. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a une technique d'une efficacité et d'une solidité redoutable. Les restaurateurs me le disent encore là tout récemment sur Danapal, ils sont stupéfiés de la maestria et de la solidité de la peinture. Il n'y a aucun problème, ils travaillent vraiment en toute sécurité. On peut retirer les vernis, mais tout en dissociant parfaitement les vernis de la peinture à l'huile. Delacroix s'est arrangé pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, qu'il n'y ait aucune perte lorsqu'on restaure ces tableaux. Sa peinture est extrêmement résistante.
Et pourquoi vernissait-on autant?
Alors, on vernissait dans l'ancien temps parce que, tout simplement, le vernis a deux fonctions. D'abord, il protège la peinture des agressions extérieures, et puis il aide les couleurs à atteindre leur saturation complète. C'est quand un tableau est fraîchement peint, mais qui n'est pas encore verni, il est un peu opaque. Il manque de profondeur. C'est le vernis qui va donner à chaque couleur son intensité la plus forte et donc provoquer la sensation de profondeur dans l'image. Et petit à petit, en fait, pendant longtemps, on s'est dit que voilà, plutôt que de restaurer, de retirer les vernis, qui est une opération coûteuse, dangereuse aussi, hein, il ne faut pas se tromper de solvant, eh bien, on s'était dit il vaut mieux rajouter quand le vernis de surface commençait à vieillir ou à être un petit peu opacifié avec le temps, on rajoutait un nouveau. C'est vrai que ça redonnait de l'éclat, ça redonnait de la brillance. Sauf que à force de faire ça X fois, surtout en oubliant de dépoussiérer l'œuvre entre deux, ce qui fait que ça emprisonne de la crasse ou de la poussière entre plusieurs couches de vernis. Bon, vous faites ça pendant des décennies, au bout d'un moment, on peut plus. Il faut retirer, il faut nettoyer les vernis. Mais voilà, il faut de l'argent, il faut du temps, beaucoup de logistique, comme vous voyez, donc c'est normal que... Mais d'un autre côté, c'était une décision sage de nos prédécesseurs. Il vaut mieux rajouter des vernis. Certes, au bout d'un moment, ça altère la vision de l'œuvre, mais ça la protège. Et donc, plutôt que des nettoyages trop agressifs qui ont parfois été faits, malheureusement, non sans désastre sur des tableaux par le passé, il valait mieux revernir. Aujourd'hui, il y a une déontologie, il y a une prudence des restaurateurs qui fait qu'on est sûr de ne pas faire d'erreur.
Merci pour cette question technique. Je prendrai une seule question.
Que vous allez remettre un vernis alors dessus?
Oui, bien sûr, bien sûr, il y a un nouveau vernis.
C'est une question de quelqu'un
à l'issue de la restauration.
Mireille, une question. Hein.
Je voudrais savoir si, quand il a écrit son journal, il pensait qu'il serait un jour lu, et, ou est-ce qu'il voulait même qu'il soit lu par le public, et comment l'a-t-on retrouvé, ce journal?
Alors, il est probable qu'il n'avait pas dans l'idée d'être lu lorsqu'il écrit son journal jeune, celui qu'il a tenu entre 1822 et 1824. D'ailleurs, on voit qu'au bout d'un moment, ça part dans tous les sens, c'est à peine lisible. Il écrit des choses très très intimes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple sur ses relations très physiques avec certains modèles professionnels. En revanche, lorsqu'il reprend à l'âge de 49 ans
là,
la rédaction d'un journal, à partir de 1847, là, il est probable que c'était dans l'idée un jour de les rendre publics. D'ailleurs, c'est à partir de réflexions, de notations qu'il écrit dans son journal, que va s'élaborer petit à petit le dictionnaire des Beaux-Arts. Donc le dictionnaire des Beaux-Arts, finalement, est la continuation d'un travail qui commence dès le journal. Et c'est donc tous ces carnets, après sa mort, il ne va pas les faire brûler, contrairement à certains autres papiers, hein, qu'il fait brûler par sa gouvernante. Il les transmet à plusieurs amis, et en ne donnant pas de consignes, mais voilà, en laissant ouvert la possibilité tout à fait de les publier. Donc ça a été fait déjà dans une première version au début du XXe siècle, et là, ça a été réédité dans une édition remarquable avec annotations, apparat critique, index, etc., par une formidable universitaire historienne à la fois de la littérature et de l'art, Michèle Hanouche, donc une publication de référence maintenant, qui date de 2009.
Eh bien, bravo encore, merci pour cette présentation, et en espérant